VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. République démocratique du Congo, 5 civils ont été tués dans la nuit de lundi à mardi par de présumés rebelles des ADF, les forces démocratiques alliées, au 13e jour des opérations d'envergure annoncées par l'armée nationale congolaise contre les fiefs de ces rebelles dans l'est du pays. Une vingtaine de civils ont perdu la vie dans des attaques attribuées aux ADF depuis l'annonce du lancement de cette offensive le 30 octobre. Dans un communiqué daté du 10 novembre, l'armée congolaise a dit vouloir, et je cite, « éradiquer de manière définitive les groupes armés terroristes actifs dans l'est de la RDC ». Et toujours concernant les violences dans l'est de la RDC, une radio locale engagée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Ituri, dans le nord-est du pays, a annoncé qu'elle cessait d'émettre par peur de représailles ayant déjà coûté la vie à l'un de ses journalistes. Il s'agit de la radio communautaire Luemba du territoire de Mambasa. Son directeur, Joël Moussavouli, affirme avoir décidé de couper les signaux hier. Il souligne que son équipe et lui-même en personne sont victimes de leur engagement dans la sensibilisation contre la propagation de l'Ebola. Edi Sango a joint Joël Moussavouli.
Comme journaliste de la radio communautaire Luemba, je suis maintenant à des bandades actuellement à cause des menaces qui pèsent sur eux, parce que ce dernier est en train de sensibiliser sur la maladie à virus Ebola. Et actuellement, un journaliste est sur en cachette, les uns sont encore dans la brousse et les autres sont dans des familles d'accueil où ils supposent être sécurisés. Et suite maintenant à ces menaces qui pèsent aux journalistes, nous avons décidé de fermer, de couper avec le signal de la radio jusqu'à ce que les autorités politiques puissent nous venir en aide parce que ces affaires opèrent dans le milieu sans aucune inquiétude. Les journalistes maintenant sont abandonnés à leurs professeurs. Vous vous souvenez avec nous que notre confrère Fatih Mahamba a été lâchement abattu la nuit du samedi 3 novembre dernier. C'est pour cette raison que nous autres qui restons, nous avons vraiment la peur au ventre, craignant que nous serions aussi égorgés comme notre confrère qui a été lâchement abattu.
Qu'est-ce qui est fait depuis l'assassinat ou le meurtre de votre confrère Papi Mahamba? Est-ce qu'il y a des enquêtes? Où en est-on?
Ce jour-là, Papi Mahamba était revenu de la radio juste après son émission de sensibilisation que la maladie a virus Ebola arrivée chez lui. Il a été lâchement abattu.
Y a-t-il une raison pour laquelle ces groupes de gens qui ne sont pas connus jusque-là tuent ou menacent les journalistes qui sensibilisent sur Ebola?
C'est la radio qui reste maintenant l'unique outil pouvant être utilisé pour la sensibilisation de la maladie à virus Ebola. Donc, notre problème, notre péché que nous avons commis, c'est d'avoir continué avec les activités de sensibilisation de la maladie à virus Ebola pour que la population, selon elle, dise que cette maladie n'existe pas. C'est une maladie de mondage, c'est une maladie satanique. Alors, la population ne comprend pas que la maladie existe.
Est-ce qu'on connaît les personnes qui ont tué votre confrère ou qui vous menacent, vous, les autres des médias?
Ces assaillants étaient accompagnés avec certains fils de tournoi qui le montraient maintenant où se retrouvait la maison de chaque agent qui travaille avec les équipes de la Riposte. Certains d'entre eux ont été arrêtés, mais quelques jours après, ils ont retrouvé leur liberté. On ne sait pas pour quelle cause.
Quel genre de menaces avez-vous reçu ces jours-ci?
Il y a eu une pharmacienne qui était enlevée la nuit du vendredi dans sa pharmacie, près de 19h, et puis relâchée vers 2h du matin, et ses assaillants leur avaient donné un tract qu'elle vient donner aux agents de la Riposte, ainsi qu'aux journalistes qu'on leur promette la mort. Il y a aussi des tracts qui sont ramassés par-ci, par-là, et nous serons toujours tués.
Joël Moussavouli, directeur de la radio communautaire Luemba, dans le territoire de Mambasa, province de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC. À Afrique australe maintenant, à l'île Maurice, archipel de l'océan Indien, le premier ministre Pravin Jugnauth, dont la coalition a largement remporté les législatives du 7 novembre, a été investi ce mardi lors d'une cérémonie officielle à la résidence du chef de l'État. Pravin Jugnauth, 57 ans, un dirigeant de centre droit qui avait succédé en 2017 à son père, Anirudh Jugnauth, a prêté serment devant le président Barlen Viapuri. Aussitôt après, le premier ministre a proposé un nouveau gouvernement de 23 membres dont la composition a été approuvée par le chef de l'État. Un cabinet qui comprend trois femmes, dont une nouvelle venue, Kalpana Kondjoucha, à qui a été confié le portefeuille de l'égalité du genre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel au Mali, l'armée nationale malienne dit mener actuellement une vaste offensive dans le centre du pays. Plusieurs djihadistes ont été tués dans cette opération menée avec le soutien de l'armée de l'air malienne. L'offensive a été lancée après deux attaques meurtrières récentes des djihadistes dans lesquelles une centaine de soldats maliens ont trouvé la mort en un mois. De Bamako, le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Tous les chefs militaires des forces armées maliennes FAMA sont actuellement sur le théâtre des opérations. Les militaires maliens ont reconsidéré leur posture opérationnelle sur le terrain. Yaya Sangaré, ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement.
Et aujourd'hui, nos forces armées maintenant font des mouvements sur le terrain, des opérations terrestres appuyées par l'armée de l'air Mali et qui permettent maintenant de neutraliser beaucoup de terroristes autour en détruisant les bases logistiques. Ces terroristes, ce qui nous a permis vraiment de non seulement de les métalliser, mais de récupérer aujourd'hui beaucoup de pièces à conviction.
Avec les replis des FAMA sur des zones sécurisées, les populations se sentent abandonnées par leur armée.
Mais ce qui a été donné comme instruction, c'est de pouvoir regrouper les soldats en un lieu beaucoup plus sécurisé et de permettre aux militaires d'intervenir. Mais dans leur intervention, ils ont l'œil sur les populations qui aujourd'hui craignent le fait que l'armée s'est un peu éloignée d'elles.
Le gouvernement du Mali, dans un communiqué, a invité l'ensemble du peuple malien à accompagner et à encourager les femmes dans leur combat contre les forces obscurantistes qui mettent en mal le vivre ensemble. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso aussi, intensification des opérations des forces gouvernementales contre les djihadistes. Trois assaillants ont été abattus hier à Fotouri, dans l'est du pays, dans ce que l'armée burkinabé qualifie de vigoureuse riposte à une attaque terroriste contre un détachement militaire. Les détails avec Bagassi Koura.
L'armée a expliqué l'incident dans un communiqué disant, et je cite, « Le 11 novembre, à l'aube, aux environs de 5 heures du matin, le détachement militaire de Fouturi, qui se trouve dans la province de la Koumandiari, a été la cible d'une attaque terroriste. L'état-major des armées souligne que la vigoureuse riposte des unités a permis de neutraliser au moins trois assaillants et de récupérer de l'armement et des munitions. Deux soldats du détachement ont été légèrement blessés, toujours selon le texte. Réagissant à cette attaque, le chef d'état-major des armées, le général Moïse Minungu, a félicité les unités engagées, et particulièrement le détachement de Fouturi, pour leur, je cite, « détermination ». Il a aussi exhorté l'ensemble des forces armées nationales à poursuivre les efforts qui, selon lui, mèneront indubitablement à la victoire.
Politique en Guinée, le président guinéen Alpha Condé a validé la date du 16 février pour la tenue des élections législatives. Dans un pays en proie à une vive campagne de protestation contre l'intention prêtée au chef de l'État de briguer un troisième mandat en 2020. Cette date avait été avancée samedi par le président de la commission électorale, mais elle restait suspendue à l'homologation du président Condé. La date du 28 décembre ayant été proposée précédemment. L'opposition et ses représentants au sein de la commission électorale avaient dénoncé un projet irréaliste et servant, selon elle, le plan attribué au président Condé de briguer sa propre succession et de faire réviser pour cela la constitution nationale qui limite à deux le nombre des mandats présidentiels. Immigration aux États-Unis, maintenant le sort de 700 000 jeunes migrants aux mains de la justice américaine. Des dizaines de jeunes migrants qui ont grandi sans papiers aux États-Unis font le pied de grue devant la Cour suprême ici à Washington à l'issue d'une marche de 370 kilomètres. Le point avec Michel Joseph.
La Cour suprême des États-Unis doit examiner ce mardi le programme dit DACA qui a été adopté en 2012 par le président Barack Obama et qui interdit d'expulser ces jeunes et leur a donné un numéro de sécurité sociale qui leur permet d'étudier, de travailler ou de conduire aux États-Unis. Son successeur, le président Donald Trump, a décidé en 2017 de mettre un terme à ce programme dit DACA. Des tribunaux ont provisoirement bloqué sa décision, accordant un répit à ceux qu'on surnomme les « Dreamers » et dont le sort est maintenant aux mains des 9 juges de la Cour suprême. Pour plaider leur cause, ces jeunes sont partis à pied de New York le 26 octobre. Ils sont arrivés dimanche devant la haute juridiction des États-Unis.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.